Ben, la louange a pas mal aussi. Il y a eu pas mal de paroles. Je voulais vous parler d'un homme, et vous le reconnaîtrez facilement. Il marcha avec Dieu. C'est la vie d'Enoch. Trois mots. Il marcha avec Dieu. C'est un homme dans l'humanité qui n'a qu'un seul parallèle, hein, c'est le prophète Élie. Et pourtant, la Bible n'en dit presque rien. Pourtant, c'est quand même le truc le plus dingue qui est arrivé à un homme, quand même. Hein? Donc, tout le temps qu'Enoch vécut fut 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne parut plus parce que Dieu le prit. Voilà toute sa biographie. J'espère qu'on en dira plus de moi. Non, mais c'est vrai, pour une si longue vie, 365 ans, et pourtant elle suffit parce qu'elle tient un seul mot qui l'élève au-dessus de tout ce qui l'entoure, il marcha avec Dieu. Son nom signifie dévoué, formé, discipliné, mais aussi repos, pause. Tout cela nous dit qui il était. C'est intéressant. Et puis ce qui donne à cet homme, à cette figure, son relief, c'est le fond sur lequel elle se détache. Le mal avait tout envahi. Jamais l'humanité n'est descendue si bas. Hein ? L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Ça, c'est l'ambiance de l'époque. Nous, ça fait rire, hein, à côté. Franchement, ça va mal, ça allait bien plus mal. Bien plus mal. Et là, qu'est-ce que Dieu va dire ? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. On a du bol, pour l'instant, il ne s'en est pas repenti. Mais en tout cas, là, c'était le cas à l'époque. Donc, l'ambiance est terrible. Autre chose, si vous regardez en Genèse 4, il y a la descendance de Caïn. Vous le regarderez. Et le septième dans cette ligne s'appelle Lémec. Et Lamec, plutôt. Et Lamec, vous savez ce qu'il dit à ses femmes ? Il en a deux. Ada et Silla, entendez ma voix. Écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois et Lamec 77 fois. En français courant, dans la version français courant, ça dit « Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. » Vous voyez, c'était pas mal quand même. Hein ? Voilà déjà la vision du monde qui est là. L'enfant, la face opposée, qui tue des enfants, qui parle de vengeance. Et c'est marrant parce que là, vous vous souvenez ce que Jésus va dire à l'apôtre Pierre ? Combien de fois pardonnerai-je ? 77 fois, 7 fois. Donc c'est comme s'il annihilait la parole de Lamec par rapport à la vengeance. C'est quand même précis la parole de Dieu. Hein ? C'est toujours super. Parce que la vie avec le Seigneur, ben, c'est du pardon, c'est de la grâce, c'est de l'amour, mais c'est tout sauf de la vengeance. Ça n'existe pas la vengeance dans le royaume de Dieu. Je pense à retenir. Et là, à contrario, il y a une lignée d'hommes qui brille. Seth, Enoch, Kénan, jusqu'à Noé. Une chaîne où la connaissance de Dieu va se transmettre de père en fils. Par exemple, moi je me suis amusé, hein, vous pourrez vérifier, mais je pense que je ne suis pas trompé. Adam, il a connu Lémec, le père de Noé. C'est marrant quand même. Adam, il a dû en raconter des choses à Lémec. Oui, j'étais dans le jardin, on a péché, voilà. Mais on s'est repenti, mais Dieu nous a chassés, mais Dieu nous a gardés en vie, etc., etc., etc. Donc quel témoignage vivant, clair, précis. Et quand Noé va bâtir l'arche, ben, certainement que son père a pu lui répéter tout ce que Adam lui avait raconté. Parce que depuis ce temps-là, Dieu n'a jamais laissé, a toujours laissé un témoin sur la terre, toujours. Toujours au milieu de la cité des hommes, il y a toujours eu un petit troupeau. Toujours, toujours, toujours. Il y a un gars, mais je ne me rappelle plus le nom, qui avait écrit un livre sur l'histoire de l'Église, et il parle de l'Église il y a 2000 ans, et comment elle s'est perpétuée à travers les siècles. C'est pas forcément par des mouvements connus, mais il y a toujours eu un petit troupeau, toujours qui a transmis. Et c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc voilà la question. Enoch a vécu 365 ans, bien plus que nous tous, hein, je pense. Enfin, peut-être qu'il y en a qui veulent, mais pouvez toujours l'espérer. Hein. Mais c'est lui qui a vécu le moins longtemps. C'est quand même pas paradoxal, ça aussi. Hein. Autour de lui, il y a des hommes qui ont vécu plus de 1000 ans. Vous vous rendez compte, 2026. Le gars qui est né en 1026 et qui vit encore, ça y fera drôle, hein. Quand même. Hein. Nous, on dit 100 ans, ça fait drôle. Mais là, imaginez, 1000 ans. Donc, c'est encore autre chose. Alors, toujours la même chose, scandée comme une évidence chaque fois, qu'est-ce qu'il est dit ? Puis il mourut. C'est la chose la plus évidente, la plus oubliée. Notre vie est un souffle, puis qui s'éteint. Et c'est vrai que, heureusement aussi, qu'on ne passe pas à ça tous les jours. C'est un peu déprimant. Hein ? Mais le paradoxe, l'humour de Dieu, c'est celui qui a vécu le moins longtemps et le seul dont il n'est pas écrit, puis il mourut. De lui, on lit autre chose. Puis il ne parut plus parce que Dieu le prit. Il y a 2-3 jours, là, j'étais avec mon petit-fils, c'était marrant, et il était avec moi au restaurant, et il voulait des glaçons. Alors je lui mettais des glaçons, et puis chaque 30 secondes, il faisait « je veux des glaçons », ils se sont envolés au ciel. Je me suis dit, tu sais, c'est marrant. Voilà, c'est une vision de... Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où vous êtes là, vous êtes avec des gens, puis d'un coup, vous êtes seul. Enfin, moi, je l'ai vécu, en tout cas. C'est ma peur, peut-être. Je me suis dit, pétard, mais ils ont été enlevés, et moi. Quelle angoisse. Voilà. Je pense que ça est arrivé à d'autres. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que la réponse tient ? Qu'avait-il donc de plus que les autres ? Voilà, c'est ça la vraie question. La réponse tient à un mot. C'est la seule question qui décide d'une vie, en fait. Avec qui marchons-nous ? Enoch a choisi de marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, il ne parut plus parce que Dieu le prit. Dans l'épître de Jude, il est dit qu'il était prophète de l'Éternel, prédicateur de la vérité. Donc vous voyez quand même, il a eu une vie active. Hein ? Notez bien cette expression, elle est simple, mais elle peut se graver facilement dans notre esprit. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas vivre avec Dieu. Il y a une dimension supplémentaire. Marcher avec Dieu, c'est autre chose. Pour la rendre concrète, bon, c'est une histoire que j'ai vécue il y a un mois, à peu près, hein, il y en a qui me corrigeront, qui étaient là. On a perdu un ami, il est parti au ciel, et puis c'était un homme qui a vraiment marqué ma vie. C'était l'ancien de l'église de l'Arche. Voilà. C'était vraiment un gars extra. Enfin, je pourrais vous raconter 10 000 histoires, mais ce n'est pas le sujet, mais... Voilà. Il voulait que je me fasse baptiser, par exemple, et tous les dimanches, à la fin du culte, il me disait « Alors, semaine prochaine ?» Et oui, à l'époque, c'était... on rigolait moins. Et chaque fois, je disais « Non, non, plus tard, on verra. » Puis un jour, il m'a obligé, mais c'était bien. Pas obligé, hein, attention, il ne m'a pas martyrisé, mais voilà. Et donc, le jour de ses obsèques, son fils nous a lu une lettre, la lettre que son père, quand il s'est converti, et ce n'est pas un homme qui était converti à 20 ans, beaucoup plus tard. Il a lu une lettre que son père avait adressée juste après sa conversion à tous les habitants du village. C'est déjà un truc de fou. Sachant que lui, c'était vraiment, il était de Codonian, c'était vraiment un gars du village, tout le monde le connaissait. Et voilà ce qu'il disait. Voilà, je m'appelle Pierre Montalban, je viens de donner ma vie au Seigneur Jésus. Cela a changé toute ma vie. Vous imaginez, vous recevez une lettre. Il m'a pardonné mes péchés, il m'a donné la vie éternelle, il est amour et bonté, je veux le suivre et le servir. Mais ce que je voudrais le plus au monde, c'est que vous le rencontriez vous-même, personnellement. Si mon histoire vous touche, voici mon numéro de téléphone. Je suis à votre disposition pour parler de mon Seigneur. Quand il a lu ça, j'avoue que bon, certains étaient déjà au courant. Il paraît aussi, parce que quelqu'un me l'a raconté, il allait dans un café... avec Philippe, hein, je crois que c'est... Et il posait son témoignage sur chaque table. Ah ouais. Voilà. C'est incroyable, non ? Enfin, pour moi, c'est incroyable. Pour moi, Pierrot, on l'appelait comme ça, il n'a pas seulement vécu, il a marché avec Dieu. Il y a une nuance, mais elle est fondamentale. le but, le caractère dominant de toute sa vie. Alors, en fin de compte, que notre vie soit longue, brève, hein, prospère, éprouvée, je crois qu'on sera heureux si arrivé au bout, hein, il n'y a finalement qu'une seule chose à dire de nous, il marcha avec Dieu. Hein. Ce serait un... Hein. Sur terre, on est des voyageurs, hein, en fin de compte. Hein. C'est dit plein de fois dans la parole de Dieu. On est des voyageurs, on est embarqués sur le chemin de la vie et nous marchons tout simplement. En plus, très concrètement, on n'a pas d'autre choix que de marcher, on avance. Voilà, on ne va pas rester là sans rien faire. Donc, c'est très concret. Donc, marcher avec Dieu, je crois que le mieux pour bien comprendre, c'est mettre en face son contraire. Parce que dans nos vies, nous sommes deux personnes, en fin de compte. Il y a l'homme spirituel, puis tour à tour, des fois, on est aussi l'homme naturel. On est l'homme qui marche avec le monde. Et puis, on est aussi l'homme qui marche avec Dieu. Hein ? Chacun, je pense, peut s'y reconnaître. Celui qui marche avec le monde, il étudie le terrain. Il ouvre les yeux, il regarde les plus habiles. Hein, ça, on commence comme ça dans la cour d'école, pour imiter les plus forts. C'est une manière de se conformer au siècle présent. À l'inverse, celui qui marche avec Dieu, lui, il commence par autre chose. Il s'efforce d'apprendre à connaître Dieu, il le cherche, il s'élève du visible à l'invisible, il reconnaît cette voix qui lui parle, et sa parole devient une révélation écrite. Il la lit, l'étudie, la sonde, il en fait ses délices, et peu à peu, il entre dans l'intimité du Seigneur. On entre dans l'intimité du Seigneur, hein, le « il », voilà. Comme un ami avec un ami. Car comment marcher avec Dieu en se privant de sa parole ? Comment ? Ne vous privez pas de cette parole. Hein ? Parce que ce chemin, c'est dans l'Écriture qu'on le trouve. Ensuite, celui qui marche avec le monde, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il suit la multitude. Hein ? Les coutumes et la mode sont ses conseillers. Hein ? Il s'adapte. Voilà. Ça, c'est bien. Il ne va pas dire c'est mal. Donc, ce n'est pas trop bien, mais ça va. On va dire ça comme ça. Ça, c'est moi un peu. Quand je suis un homme naturel, attention. Celui qui marche avec Dieu, lui, ben, c'est l'inverse. Il n'a qu'une loi, il n'en connaît pas d'autre, la volonté de Dieu. Rien d'autre. S'il lui arrive de s'en écarter, c'est toujours pour y revenir. Hein, par le retour simple de la repentance. Son aliment, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il peut dire avec le psalmiste, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Celui qui marche avec le monde, il veut plaire au monde. Le sourire du plus grand nombre est sa récompense. On est tous tombés là-dedans. Hein. Et son ambition, c'est d'être aimé, considéré. C'est humain, j'allais dire. Mais ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas le but essentiel. Par contre, marcher avec Dieu sans mépriser l'opinion des autres, c'est plaire à Dieu, devient le but, le bonheur de sa vie. Le seul vrai mal, c'est lui déplaire. On vit comme ça des fois quand même. Ne vous dites pas, waouh, c'est un truc super élevé. Non, non, il faut simplement le Seigneur le laisser agir. Et quand il agit, il ne se dit pas « mais qu'est-ce qu'on va en penser ?» Il se dit « qu'est-ce que Dieu va en penser ? Qu'est-ce que le Seigneur va en penser ?» Ça va être son moteur. Puis regardez, celui qui marche avec le monde, il regarde au monde, il cherche ses joies, ses succès, sa gloire. Il a toujours le monde devant les yeux. Vous savez, quand on est à des moments dans nos vies, on se dit « moi j'ai l'impression que je ne vis plus rien » ou quoi que ce soit. Ben, peut-être qu'on est des fois dans cet état d'esprit. On est plus intéressé par le monde en général. Hein. À l'inverse, celui qui marche avec Dieu, il garde sans cesse le regard levé. C'est vers l'éternel qu'il se tourne. Hein. Quand la peur le saisit, il regarde vers les montagnes d'où lui vient le secours. Hein. C'est vers lui qu'il regarde au moment où il fait le point sur sa vie. Et il se demande, ou je pourrais dire, je me demande comment le Seigneur a pu me supporter. Ça, c'est clair. Hein. Il demande pardon de ses fautes hein, et il comprend un point fondamental. Et ça, je crois que c'est un encouragement. Nous sommes aimés. Tant qu'on ne comprend pas que Dieu nous aime, ça ne peut pas fonctionner. Quand on comprend que Dieu nous aime et qu'il n'est pas dupe de qui nous sommes, il veut juste qu'on lui demande pardon parce qu'il nous aime. Voilà. Hein ? Il réclame sans cesse le secours de celui qui lui répète « Ne crains point, car je suis avec toi. » Voilà. Voilà la seule pensée. Hein ? Alors, vous le sentez, j'espère en tout cas, au fond, par-delà ces situations, la différence entre ces deux hommes, c'est quoi ? Alors, il y a une différence, elle est fondamentale, elle est essentielle. L'un croit, l'autre ne croit pas, c'est tout. Et à des moments dans nos vies, on croit, et à d'autres moments, on ne croit pas. On ne croit pas parce qu'on se trouve dans des situations qui nous semblent tellement énormes, tellement compliquées, qu'on a besoin de passer par un chemin. C'est le chemin où Dieu nous amène pour commencer à être déconstruit et à croire. On l'a tous vécu. Personne n'a échappé à ça, parce que ça s'appelle l'humanité, et que l'humanité, elle a des doutes. Et Dieu est là pour combler ses doutes. Hein ? Enoch marcha avec Dieu, et puis il ne fut plus là, parce que Dieu le prit. Voilà. Alors, revenons à la question du début. Pourquoi cet homme échappe au puits, il mourut ? Hein ? Déjà, Jude l'appelle Enoch, le septième depuis Adam. Voilà. Alors, comme l'autre, Lamech, le fils de Caïn, enfin, l'arrière-petit-fils, était le septième. Il y a toujours des oppositions comme ça, hein, dans la parole de Dieu, qui sont intéressantes à remarquer. Enoch, c'est le septième depuis Adam. Le septième, l'achèvement, le repos. Le jour où Dieu, hein, son œuvre accomplie, se reposa. Voilà. Enoch a trouvé le repos en Dieu. Et Dieu a trouvé le repos dans cet homme. Voilà. Parce qu'il était, voilà, symboliquement le septième. Dieu plante déjà un signe. Un homme que la mort n'atteint pas. Un avant-goût de celui qui vaincrait la mort. C'est ça. Hein, parce que bon, il y a le prophète Élie, mais là, c'est autre chose. Un jour, Dieu nous prendra. La mort, dira-t-on ? Oui, on dira ça. Mais l'apôtre Paul, dans Thessaloniciens, il dit que nous nous endormirons. Hein ? Je vais vous le dire parce que moi, je trouve ça absolument génial. Ça me fait du bien. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne soyez pas tristes, de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc nous serons, et ceux qui nous ont précédés se sont endormis. Voilà, parce qu'un jour nous serons ressuscités, et ça, c'est une sacrée espérance. Et c'est une belle. Ce jour-là sera un joli et beau jour. Hein, voilà. Donc, depuis Enoch, quelque chose a changé. C'est Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il a traversé la mort, il en est ressorti vainqueur. Voilà. Aujourd'hui, nos péchés sont pardonnés, l'ennemi est vaincu, la mort est désarmée. Hein ? Aujourd'hui, on peut regarder le ciel ouvert, on peut s'approcher sans crainte. Alors, qui dira comment meurt un homme qui a marché avec Dieu ? Eh bien, on dira, il ne parut plus parce que Dieu le prit, peut-être, tout simplement. Ça n'enlèvera pas la tristesse, hein, quand je vais partir. Vous serez tristes, certains, pas tous, bah, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui se diront, ouf, soulagement. Mais non, oui. Alors voyez ça, voilà, c'est un péché clair. J'attends ça, vous allez me dire, mais non, merci. Je l'assume. Non, mais sérieusement, voilà. Il ne parut plus parce que Dieu le prit. C'est quand même extraordinaire. On pourrait dire, chaque fois que quelqu'un s'en va au ciel, dire cela, puisque Dieu connaît exactement le nombre de nos jours. Donc le jour où on part, eh bien, c'est que le Seigneur l'a voulu. Et donc Dieu le prit. Voilà. Et on retrouvera le Seigneur. Et nos corps ressusciteront, et on sera tous beaux, tout jeunes, plus de mal, rien. J'ai hâte. Voilà. Ce qui fut pour Enoch un miracle unique, ben moi je le vois se renouveler chaque fois. Et je voudrais vous encourager à voir cela chaque fois. Hein ? Ça n'enlèvera pas la tristesse, ça n'enlèvera pas la période de deuil, tout ça, c'est clair et net. Mais se souvenir que c'est la volonté de Dieu aussi, quoi. Et donc il y a de l'espérance. Parce que nos frères et sœurs se sont endormis. Endormis, ils ne sont pas morts. Bon, enfin, moi j'ai besoin de ça, en tout cas. Hein ? Dans les jours de deuil, on doit s'encourager par ces paroles. C'est un fondement d'espérance. Voilà, donc, toute cette différence essentielle annoncée, toute dans cette vie tient à un seul point. La foi. La foi. Et vous voyez, regardez ce qui se passe dans nos cœurs, si la réalité du Seigneur diminue dans notre cœur, parce que parfois je suis négligent, aveugle, entêté, ce que vous voulez. Alors les choses visibles grandissent. Hein, le matériel, les circonstances, les situations. Hein, les situations, par exemple, où je me dis non, mais ça ne marchera pas, c'est impossible, etc. etc. Qu'est-ce que je fais ? Je me mets à marcher par la vue. Je me mets à marcher par ce qui est immédiat. Hein, et puis je tombe dans ce panneau et je me perds. Heureusement, le Seigneur nous ramène. C'est la foi, et la foi seule, qui rend visible ce qui est invisible, qui fait de lui une personne et nous permet de marcher avec lui. Hein ? Sans la foi, il est impossible. Hein ? Aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pareil, vous voyez, tout se tient. Quand il rapporte la vie d'Enoch à la foi, qu'est-ce qu'il dit ? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous voyez ? On s'approche de Dieu parce qu'on est certain. C'est ça, la foi. On s'approche de Dieu parce qu'on est certain qu'il nous écoute. On s'approche de Dieu parce qu'on est certain qu'il nous aime. On s'approche de Dieu parce qu'on est certain qu'il est bon. On n'est pas fou. On ne s'approche pas d'un Dieu qui voudrait nous détruire. Non, on s'approche de lui parce qu'il est bon. C'est le seul qui nous comprend. Vous vous rendez compte ? C'est le seul. Lui, il voit au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pour ça que la foi, c'est cette dimension-là qui rend visibles les choses invisibles. Et on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça dans nos vies. Voilà. Mais en même temps, il ne faut pas s'y tromper. Vous savez, Paul, la semaine dernière, il a parlé de la grâce à bon marché. Ben, la foi à bon marché, elle n'existe pas non plus. Hein. Mauvaise nouvelle, hein ? Parce que marcher avec Dieu, ça veut dire, par la foi, ça veut dire renoncement, lutte, effort, des fois un chemin étroit, pas évident, difficile. Mais la foi aussi, qui dit marcher par la foi, c'est l'espérance, l'éternité, la grâce, l'amour de Dieu, la vie avec Dieu. En fait, c'est Dieu, quoi. Voilà. Et c'est tout cela qui résume la vie d'Enoch. La marche, l'enlèvement et la foi qui les portaient l'un et l'autre. La foi, la marche, l'enlèvement. Voilà. Voilà au travers de la vie d'Enoch, vous voyez, j'ai été court. On peut retenir. Voilà. Et je vais finir. Mais ce que je vais faire, je vais demander à la louange de revenir, s'il vous plaît. Hein ? Et puis, ma prière, c'est que pour chacun, hein, qu'on soit mon Seigneur, mon Dieu, fait que toute ma vie entière se résume en ces deux mots. Il marcha avec Dieu, vous marchez avec Dieu. Et moi, je vous invite, puisque ça a été un peu appelé, peut-être pendant un instant de prière, à vous lever, je vais prier. Et ceux qui souhaitent s'approcher, à l'époque, j'allais dire, ça fait vieux combattant, la consécration. Peut-être c'est un temps de consécration. Peut-être c'est un temps de pour certains, je m'inclus dedans, hein, de reprendre la vie chrétienne en main, de reprendre le Seigneur au sérieux dans notre vie. Il y a peut-être des gens qui sont là ce matin, qui sont fatigués, blasés, qui disent, bon, c'est la routine, le culte. Le culte, ce n'est pas la routine. Le culte, c'est la rencontre avec Dieu. Le culte, c'est l'occasion de se mettre devant lui, de prier ensemble les uns avec les autres. Donc, je vous invite à vous lever Et pendant qu'il va avoir un chant, ceux qui souhaitent vraiment s'approcher, qui veulent... voilà. Ils peuvent venir aussi pour qu'on prie pour eux pour diverses raisons. Mais je crois que c'est un temps.